Le yiddish aujourd'hui. Chanson, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Alors aujourd'hui, comme nous sommes en ce moment en train de lire la Genèse, c'est les parachutes de cette période, voilà, j'ai eu envie de lire un poème de Kadia Molodowski qui parle justement des matriarches. Et donc, nous avons déjà écouté un texte de Kadia Molodowski, peut-être même plusieurs, mais en tout cas, nous avons lu le Der Mantel, l'histoire du manteau, qu'avait lu Yaël, voilà, que j'avais lu en yiddish et Yaël en français, donc qui est une, ce qu'elle a appelé les mycellers, c'est-à-dire les petites histoires. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Alors, Kadia Molodowski est née en 1894 et morte en 1975. C'est un auteur que j'aime beaucoup et dont j'ai traduit pas mal de textes. Et c'est une des rares femmes qui a vraiment eu une longue carrière littéraire. C'est vrai qu'il y a eu des femmes poétesses, des femmes écrivains, mais souvent leur carrière a été courte pour plusieurs raisons. Soit elles se sont arrêtées d'écrire au moment où elles se sont mariées, où elles ont eu des enfants, ou alors malheureusement leur vie a été interrompue par la Shoah, hein, donc celles qui étaient en Europe. Et Kadia Molodowski a eu la chance de partir aux USA en 1935, et donc elle a encore pu continuer sa carrière et sa vie jusqu'en 1975. Donc elle a vraiment, ça fait partie de ces auteurs qui ont, on peut dire, couvert le siècle. Elle a eu une instruction assez complète, aussi bien au niveau yiddish qu'hébraïque, hein, donc elle connaissait très bien l'hébreu, ce qui était assez rare à l'époque pour les femmes. Et puis, elle a commencé à écrire tôt. Donc, elle était à Kiev au moment de la Révolution. Et il faut savoir que Kiev, il y a eu, juste après la Révolution, un mouvement extrêmement créatif au niveau yiddish, le groupe de Kiev, dont le mentor est David Bergelson, qui fait partie des écrivains soviétiques assassinés par Staline en 1952. Et donc, et ils ont fondé la revue Eigens, qui veut dire propre, notre propre culture, voilà. Et elle est la seule femme de ce groupe, et elle a déjà fait paraître en 1920 deux poèmes, donc à l'époque, elle avait 26 ans. Et en 1922, elle fait paraître un recueil qui s'appelle Brennende Brücken, Pont en feu. Là, ce sont des poèmes à thème révolutionnaire. Puis elle est partie à Varsovie avec son mari. Et là, elle va publier des textes dans les Literarische Blätter, qui sont vraiment le journal littéraire tout à fait connu et qui a fonctionné jusqu'en 1939. Et elle s'oppose, par exemple, aux idées de Meller-Ravitch sur la poésie féminine. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas être classée comme une poétesse féminine. Elle veut qu'on la considère tout simplement comme une poétesse. Donc,
vieux débat, hein, n'est-ce pas? Ça commence
vieux débat.
Des débuts.
Exactement, vieux débat. Alors, je ne sais pas si ça a été déjà évoqué dans d'autres régions avant, mais en tout cas, là, on est dans les années 20 et il y a déjà cette polémique.
Problématique.
Voilà, oui. Est-ce qu'il y a une poésie féminine ou pas? Ouais. Et est-ce qu'il faut rassembler les poèmes féminins puisqu'il y a un auteur, enfin un critique plutôt, qui a rassemblé, dont le nom m'échappe maintenant, qui a rassemblé les textes féminins, les textes de poétesses féminines dans un... De poétesses, oui, pas évidemment,
ouais.
Féminines, évidemment, de poétesses, dans un livre. Et elle s'est opposée à ça, elle n'était pas tellement contente, parce qu'en plus on l'a mise à côté d'un autre auteur qu'elle n'aimait pas. Voilà, donc voilà, les polémiques, il n'y a pas qu'entre les hommes, c'est aussi avec les femmes, voilà.
Ouais.
Et donc, les poèmes que je vais lire sortent d'un recueil qui s'appelle Reschwendike Nacht, donc nuit de Reschwan, que j'ai traduit par nuit d'automne, qui ont été édités aux éditions Kletskin de Vilna en 1927, qui a eu un très bon accueil. C'est vrai que c'est un très beau recueil que j'ai commencé à traduire avec Martine Szilárd. Et bon, c'est encore un petit peu work in progress, on peut dire. J'ai pas fini de le traduire, mais c'est un très très beau recueil. Bon, ensuite, elle a continué à écrire. Elle a en particulier écrit un très beau texte qui s'appelle Friedke. Ça, c'est sur la vie d'une ouvrière juive polonaise à Varsovie. Et mise en parallèle avec la vie à Paris, puisque son mari, lui, était à Paris, où il gagnait très, très pauvrement sa vie. Alors, elle est très connue parce qu'elle a écrit beaucoup de textes pour enfants, des mycellars, qui sont en vers, qui sont très, très sympas, qui ont beaucoup de tam, on peut dire aussi en yiddish, renevdik, très, beaucoup de grâce, qui sont très sympas à lire. Bon, après, pour les traduire, c'est pas toujours facile, mais ça peut se traduire. Ça a d'ailleurs été pas mal traduit en hébreu. Certains les a traduits elles-mêmes. Il y en a qui sont tout simples, des petites comptines, 1, 2, 3, je ne sais pas quoi, enfin voilà. Et il y en a d'autres qui sont plus compliquées. Et ça, ça a fait sa renommée. Hein. Mais elle a écrit aussi beaucoup d'autres choses, et en particulier, après la guerre, elle a écrit de très beaux poèmes sur la Shoah. Donc vraiment une œuvre très complète et très, très variée. C'est une femme qui était toujours dépressive, qui n'a pas eu une vie facile au départ. Et lorsqu'elle était aux États-Unis et que sa vie était quand même plus simple, eh bien, elle a eu les nouvelles de la Shoah, et donc là aussi dépressive. Mais malgré sa dépression, elle a toujours écrit, même si elle a écrit des poèmes, effectivement, sur la tristesse, sur le malaise, qu'on voit dès ses premières œuvres. Hein. C'est pas quelque chose qui a été déclenché plus tard. Voilà, on va peut-être commencer par entendre une chanson, et puis ensuite je lirai l'extrait de Nuit d'automne.
Oui, alors j'ai sélectionné en fait des chansons de femmes, en tout cas chantées par des femmes, même si c'est pas toujours sur des textes écrits par des femmes. Il y en aura une tout à l'heure sur un texte de Kadia Molodowski, mais je voulais commencer par notre voisine maintenant, notre amie Michèle Tauber, qui a sorti un très beau disque, un double disque, Métamorphose des mélodies. Ce sont deux CD, l'un avec des chansons yiddish, l'autre avec des chansons en hébreu, parce que pour elle, ces deux langues sont jumelles et il n'y a pas de raison d'en privilégier l'une plutôt que l'autre. D'ailleurs, elle est maintenant directrice de l'Institut d'hébreu à Strasbourg, mais ça ne l'empêche pas de continuer une carrière de yiddishiste très, très active. Alors, c'est une chanson, une chanson assez connue du répertoire, « Die Sonne wird heruntergehen unter den Berg », sur un poème de Moshe Leib Halpern. Et Michel Tauber est accompagné en général, et dans ce disque aussi, simplement par un pianiste, Laurent Greenspan, qui joue très très bien. Mais bon, c'est pas le son qu'on attend par rapport à la chanson yiddish, puisqu'on est plus habitué à l'accordéon, au violon, à une clarinette. Mais c'est très joli quand même. Je vais lire rapidement la traduction de ce poème. « Le soleil descendra derrière la montagne, viendra l'amour » et doucement s'approchera de la tristesse assise sur une pierre d'or et qui pleure en secret. Le soleil descendra derrière la montagne, viendra le pan doré à tire d'aile, et il nous emmènera tous là-bas, là-bas où la nostalgie nous appelle. Le soleil descendra derrière la montagne, viendra la nuit et elle chantera sa berceuse, penchée sur les yeux qui se ferment déjà pour dormir d'un repos éternel. Voilà. Michèle Tauber.
Die Sonne wird heruntergehen unter'n Berg, wird kommen die Liebe, was stille zu gehen, wird kommen die Liebe, was stille zu gehen, zum Umelt, wo sitzt auf der goldenem Stein. Und weint vor sich einer allein. Zum Umelt, wo sitzt auf goldenem Stein. Und weint vor sich einer allein. Die Sonne wird heruntergehen unter'n Berg. dahin, wo die Bankschaft wird ziehen. Und mitnehmen wird sie uns alle hin, dahin, wo die Bankschaft wird ziehen. Die Sonne wird runtergehen unter'n Berg, wird kommen die Nacht und wird singen Lulu, wird kommen die Nacht und wird singen Lulu. Über die Augen, wo's fallen scheint zu schlufen in ewige Ruhe. Über die Augen, wo's fallen scheint zu schlufen in ewige
Voilà, donc une très belle chanson aussi sur la tristesse qui est tout à fait bien avec, qui va bien avec Kadia Moldovsky. Alors voilà, donc dans Nuit d'automne, je vais lire donc le passage, ben, je vais commencer par un passage qui est très très connu. C'est un des poèmes des plus connus de Kadia Moldovsky, puis après je lirai le passage qui concerne les matriarches. Les femmes de notre famille viendront vers moi en rêve et diront « Nous avons, avec pudeur, à travers les générations, porté un sang pur. Nous te l'avons apporté comme un vin conservé dans les caves cachères de nos cœurs. » Et l'une dira « Je suis une femme restée seule, abandonnée, quand mes joues étaient deux pommes rougissantes sur l'arbre et mes dents blanches grinçaient dans les nuits solitaires de l'attente. » J'irai à la rencontre des grands-mères et je dirai « Comme des vents d'automne me poursuivent les mélodies fanées de vos vies. Vous venez à ma rencontre dans les rues sombres où s'attardent les ombres. Pourquoi ce sang gardé de l'impureté devrait être ma conscience comme un fil de soie noué sur mon cerveau et ma vie, une feuille arrachée à un livre saint, la première ligne déchirée ?» Voilà, donc là, on est vraiment dans la question de la transmission. Vous voyez aussi qu'il y a ce problème des agounotes, hein, des agounas, agounotes, donc ces femmes abandonnées, qui sont actuellement tout à fait au centre de l'attention, puisque c'est le problème des maris qui ne veulent pas donner le guet. Ouais. Ici, on ne sait pas. Hein, c'est une femme qui est restée seule. Est-ce que son mari est mort et que la mort n'a pas été déclarée? Est-ce que vraiment son mari est parti, par exemple, aux États-Unis en l'abandonnant? On ne sait pas. Et donc, une jeune femme avec des désirs sexuels hein, qui sont où il y a une allusion, hein, mes dents blanches grincées dans les nuits solitaires de l'attente. C'est bien de ça qu'il s'agit, quoi. Et voilà maintenant le passage, donc toujours dans le même poème, qui parle des matriarches. Pour les pauvres fiancées qui étaient servantes, la mère Sarah puise de sombres tonneaux et de cruches un vin scintillant. Pour celle à qui est destinée une cruche pleine, la mère Sarah la porte de ses deux mains. Et pour celle à qui est destinée un tout petit gobelet, la mère Sarah y laisse tomber une larme. Et pour les filles de rue, quand de blanches chaussures de mariage leur apparaissent en rêve, la mère Sarah apporte du miel limpide sur de petites soucoupes pour leurs bouches fatiguées. Pour les pauvres fiancés de bonne origine qui se gênent de mettre leur linge rapiécé sous les yeux de leur belle-mère, la mère Rebecca conduit des chameaux chargés de toile blanche et de lin. Et quand l'obscurité s'étend devant leurs pieds et que tous les chameaux s'agenouillent sur la terre pour le repos, la mère Rebecca mesure la toile coudée après coudée, depuis les petits doigts de sa main jusqu'au bracelet d'or. pour celles qui ont les yeux fatigués à force de suivre des yeux chaque enfant du voisinage, et des mains maigres à force de désirer un petit corps tout doux et le balancement d'un berceau, la mère Rachel apporte des plantes médicinales ramassées dans les montagnes lointaines et elle les console d'un mot tranquille. À chaque heure, Dieu pourra ouvrir leur matrice close. Vers celles qui pleurent la nuit sur des couches solitaires, n'ont pas devant qui apporter leur angoisse, se parlent à elles-mêmes de leurs lèvres brûlantes, vers elles vient en silence la mère Léa, cachant ses deux yeux de ses mains blêmes.
Ah, voilà. Elles sont toutes là.
Elles sont là, oui, les quatre, les effectivement. Quatre. Les quatre sont là, absolument. On va bon. Peut-être écouter une mélodie et puis ensuite je ferai peut-être un petit commentaire.
Oui, alors, donc, sur un poème de Kadia Molodowski qui s'appelle « Tfile, prière », mis en musique par Hava Halberstein. Alors, c'est un très beau CD où il n'y a que des poèmes de différentes personnes. Il y en a deux de Kadia Molodowski, mais sinon, ce sont d'autres poètes. Il y a l'inévitable Itzik Manger, il y a Ber Schnapper, il y a Papiernikov, donc Avrom Reisen. Donc, des chansons qui n'avaient pas été, des poèmes qui n'avaient pas été mis en musique et que Hava Halberstein a mis en musique.
Voilà, Hava Halberstein, encore quelqu'un qui est vraiment entre l'hébreu et le yiddish et pour qui ça pose aucun problème de
non,
chanter dans les
Israël,
deux langues.
Elle vit en Israël, elle chante dans les deux langues, j'imagine qu'elle chante dans d'autres langues aussi, mais surtout ce qui est formidable avec elle, c'est qu'elle écrit des musiques. Donc voici la traduction de ce prière de Kadia Molodowski. Nuit, ouvre-moi un berceau, comme pour le malade à son heure la plus pénible. Nuit, couvre-moi de ton silence, comme pour le plus exténué à la fin du jour. Nuit, saoule-moi par l'oubli, comme pour le portefaix sous sa lourde charge. Nuit, assombris les vitres pour un pécheur honteux pendant sa prière. Nuit, protège-moi, cache mon découragement de ce jour.
Nacht spreit uns vor mir ein Wiegel wie vor einem Kranken in sein schwerster Schuh. Nacht deck mich ein mit deiner Stillkeit wie die müdesten Mieden vor dem Umwurf und Tor. Nacht, trink mir Korn mit Vergessen, wie dem Träger dem Schwersten von die Lasten ohne Wog. Nacht, verschieb deine Schäuben, verbitter, verschämten in der Mitte hat viele zu Gott. Nacht, sei mich Matzil, verstell mich und ich schüffelst der Schof von dem Tag. Thank you.
Halberstein.
Oui, cette voix magnifique, c'est vrai, c'est
inimitable.
Et en plus, vraiment, elle sert les textes, quoi. C'est-à-dire,
cette fluidité dans la prononciation, ouais. Cette voix qui est tellement naturelle, quoi. Qui, comme elle parle, elle chante.
Voilà, donc quelques tout petits commentaires. Alors déjà pour la sensibilité, la sympathie qu'a Katia Molodowski pour les pauvres, hein, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas d'argent, les filles des rues, hein, donc les prostituées, les pauvres. Alors cette très belle, je trouve que c'est très très beau, ces fiancées qui se gênent de mettre leur linge rapiécé sur les yeux de leur belle-mère, voilà. Donc c'est comme ça, cette honte des filles qui sont de bonne famille, mais qui sont très pauvres. Et elle a elle-même connu la pauvreté, hein, quand elle était à Varsovie, elle enseignait dans deux écoles, une où elle enseignait le yiddish, l'autre où elle enseignait l'hébreu, ce qui l'empêchait pas de ne pas avoir d'argent. Alors, par contre, les allusions de Sarah avec le vin ou avec je ne les connais pas, le miel, je ne vois pas. Par contre, pour Rebecca, les chameaux, alors ça, c'est beaucoup plus clair par rapport à la Bible, hein, c'est-à-dire que c'est Eliezer donc, qui vient chercher une femme pour Isaac, et il y a donc Rebecca qui va donner à boire à ses chameaux, donc, et ensuite elle va repartir avec Eliezer, toujours sur les chameaux, et elle, avec des bijoux, hein, donc c'est bracelet d'or. Alors après, il y a une partie très très émouvante, hein, de ces femmes qui n'ont pas d'enfants, hein, les femmes stériles, akore en yiddish, qui suivent les autres enfants et qui sont tellement tristes de ne pas avoir d'enfants elles-mêmes. Et c'est le cas de Katia Molodowski, hein, elle n'a pas eu d'enfants. Et elle n'en parle jamais personnellement. Elle ne dit jamais je n'ai pas d'enfant, je suis triste. Mais celles qui ont les yeux fatigués à force de suivre chaque enfant du voisinage des yeux.
Mais hein. C'est un thème récurrent dans la Bible en fait. Hein,
oui.
Toutes ces femmes, ou qui croient être stériles jusqu'à ce qu'elles aient à peu près 120 ans et tout d'un coup elles ont un enfant.
Oui, tout à fait. On est vraiment. Tu as tout à fait raison. On est tout à fait dans les thèmes de la Bible de cette stérilité. Alors Marc-Henri Klein, là, qui est en train de faire de la critique biblique, nous a dit que tous ces textes sur la stérilité ont été écrits au moment du retour de l'exil de Babylone. Donc là, on est dans les années moins 450, par Ezra, où le problème de la stérilité était vraiment un problème parmi les femmes juives, puisque on ne savait pas soigner les infections, donc elles avaient des infections et ensuite elles étaient stériles. Et donc, la nécessité d'avoir des enfants était très importante pour que le peuple juif se maintienne. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à toutes les, en tout cas pour les matriarches, aux trois générations de matriarches, on a ce problème de la stérilité, sauf pour Léa. Cette Léa qui a, elle, beaucoup d'enfants, mais qui n'a pas l'amour de Jacob.
C'est l'un ou l'autre, en fait.
C'est l'un ou l'autre. C'est une très, très belle histoire. Et donc, quand on parle de... Donc, elle parle... Oui, c'est ça. C'est... oui, alors, c'est Rachel qui apporte des plantes médicinales aux femmes stériles. Et Léa, elle s'occupe de celles qui pleurent la nuit sur des couches solitaires. Donc, en fait, comme elle-même, c'est-à-dire qu'elle était... abandonnée par son mari, c'est-à-dire son mari préférait Rachel, et qui n'ont pas devant qui apporter leur angoisse, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas à qui se confier. Donc Léa vient, alors cachant ses deux yeux de ses mains blêmes, alors ça c'est une allusion tout à fait claire à la Bible, c'est-à-dire qu'on dit que Léa avait un problème avec ses yeux, c'est-à-dire dans la Bible, le mot c'est rakot. Ses yeux étaient rakot, étaient faibles. Alors il y a toutes sortes d'interprétations, et l'interprétation que moi j'aime beaucoup, et je crois que c'est celle de Rashi, mais j'en suis pas sûre, c'est que Léa avait des yeux qui étaient affaiblis, qui étaient rouges, qui étaient pas très beaux. Mais pourquoi ? Parce que comme elle était l'aînée, elle pensait qu'elle devrait se marier avec l'aîné de la famille d'Isaac, donc avec Ésaü, et elle savait qu'Ésaü était un méchant, était un apicoïros, on peut dire de manière un peu anachronique, un mécréant, voilà. Et donc elle ne voulait pas l'épouser, donc elle pleurait nuit et jour de peur d'épouser Ésaü, et c'est pour ça que finalement elle a eu le mérite d'épouser Jacob, même s'il préférait Rachel.
Oh ben, un coup de malheur, la pauvre.
Voilà, et donc, je crois qu'on va terminer là. Et...
Oui, dommage, mais je vais vous faire envie avec la chanson qu'on n'entendra pas, parce que c'est celle de Choura Lipovsky, qui est aussi quelqu'un de formidable, parce qu'elle aussi, elle écrit des textes qu'elle met en musique elle-même. Alors, je vous ferai entendre ça la prochaine fois.
Voilà, on vous dit Shalom Aleichem, à la semaine prochaine.
Le yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Aïe, 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 aï